Chers frères et sœurs, cette semaine nous vivions un KitKat vacances dans lequel nous avons vécu pour la première fois une mini-messe. Alors, vous allez le voir à l'écran, la mini-messe, c'est du coup la messe célébrée que par des petits. Donc on avait un mini-prêtre, qui est d'ailleurs servant d'hôtel aujourd'hui, Antonin, qui est là. Et on avait une mini-animatrice de chant, et on avait des mini-fidèles, tout était mini. Et quel était l'objectif ? Eh bien, c'était de vivre la liturgie de l'intérieur pleinement, qu'ils se l'approprient, que ça les marque dans tout ce qu'ils sont. Alors, vous savez, ça n'est pas une radicale nouveauté, puisque toute nouveauté authentique dans l'Église tire toujours son trésor du neuf et de l'ancien. Et il est vrai que depuis des années et des années, dans certaines familles, les enfants jouent parfois à célébrer la messe. Hein ? Et donc, voilà, une mini-messe. Et c'est pour que ça ne marque pas simplement le cerveau, mais que ça nous imprègne tout entier. Vous allez me dire, bah, tant mieux pour eux, mais nous, on ne va pas jouer à la mini-messe. Non, c'est vrai. Juste avant de célébrer la mini-messe, il y a une des adultes qui a dit aux enfants, peut-être que parfois vous trouvez que la messe, c'est long. Et vous avez le droit de trouver que la messe, c'est long. Et les petits l'ont regardé, et puis là, il y a un petit qui a levé la main et qui a dit, Eric, un de nos plus petits servants d'hôtel qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui fête ses 5 ans aujourd'hui d'ailleurs, eh bien, Eric, il a dit, ah non, non, quand on est servant d'hôtel, la messe, ça passe très vite. Ça, c'était la page pub. Mais je vous accorde, frères et sœurs, que tout le monde ne peut pas non plus être servant d'hôtel. C'est vrai. Même si dans la paroisse, on a une marge de progression, surtout pendant les vacances. Mais parce que quand j'ai quitté ma paroisse précédente, pour la dernière messe, il y avait 40 servants d'hôtel, 40 servantes de l'assemblée. 80 enfants et jeunes qui servaient la messe. C'était beau quand même. Quand ils sont arrivés à l'hôtel, on n'avait pas démarré la procession au fond de l'église. C'est quand même magnifique. Enfin voilà, c'est pour vous dire qu'on peut encore progresser. Et donc ça les aide à rentrer de plein pied et de tout cœur dans la liturgie qu'on célèbre. Pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs ? Parce qu'aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus nous raconte une histoire d'un semeur. Un semeur assez extraordinaire en vérité, parce que ce semeur, il sème largement. Socrate disait, si tu veux semer, il faut bien regarder où est-ce que tu vas mettre ton grain. Il faut faire attention au terrain, à la saison, etc. Sinon, le semeur qui ne fait pas attention, ça veut dire que c'est simplement pour s'amuser, pour jouer. Eh bien, Socrate, aujourd'hui, tu te trompes. Le semeur sème largement, et ça n'est pas pour s'amuser, c'est pour ne pas risquer d'être radin. Ce semeur, il est généreux, il sème en abondance, quitte à perdre un peu de grain. Il y en a qui tombent un peu à côté, mais il ne voudrait surtout pas prendre le risque que ça ne germe pas, parce qu'il n'aurait simplement manqué de générosité. Non, non, il sème largement. Et puis ça tombe, et là Jésus nous fait comprendre que ça tombe parfois dans notre cœur, qui est un peu caillouteux, où il manque un peu de terre, où on est l'homme d'un moment, on dit « ah super », vous savez, les embrasements momentanés, on est là à la messe, des fois on dit « waouh, Seigneur, je t'aime », on sort de la messe, bing, on fait la tête. Donc, en fait, Jésus nous dit « mais attendez, il faut que vous soyez une bonne terre, quoi. » Et comment on fait pour être une bonne terre ce matin ? Eh bien, il me semble qu'on a la réponse dans la liturgie de l'Église, dans un geste très précis de la liturgie, où nous tous, avant l'Évangile, les servantes, qu'est-ce qu'on fait juste avant l'Évangile ? Quel geste nous faisons ? Est-ce que vous avez une idée ? On trace une croix, où ça ? Sur le front, sur la bouche, sur le cœur. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut pour entendre cette parole, comme on l'a entendu dans l'Évangile. Ils ont tous entendu la parole d'ailleurs. Donc déjà, ils l'ont entendu, c'est déjà pas mal. Mais après, qu'est-ce qui se passe ? Alors après, cette parole, il faut que je la comprenne. Parce que si j'y comprends rien, je risque pas d'attacher toute ma vie à ça, de baser toute ma vie là-dessus. Donc déjà, c'est Seigneur, s'il te plaît, ouvre mon intelligence, que je puisse comprendre quelque chose. D'accord ? C'est très important ça, vous savez. Cette semaine, j'ai été marqué par le témoignage d'un jeune, philosophe qu'on entend parfois sur certains plateaux télé. Et lui, en fait, est d'origine juive. Il a eu une éducation très religieuse. Et d'ailleurs, il souhaitait être rabbin. Et arrivé à l'âge de 17-18 ans, il enseignait déjà dans la synagogue. À 17-18 ans, il a commencé les cours de philosophie au lycée. Et là, il s'est créé en lui comme une faille, un divorce entre sa foi et puis ce qu'il apprenait dans ses cours de philo. Et il a fini par rejeter sa foi et se dire « ça n'est pas crédible ». Et là, ça m'a fait mal. Je me suis dit « ah là 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 là, ouh là 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 là, comme c'est important ». Que, en tout cas, comme chrétiens, nous comprenions bien que jamais, jamais, jamais notre foi s'oppose à la raison ou que la raison s'oppose à la foi. Quand elles sont authentiques, jamais. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, frères et sœurs, la raison toute seule, c'est dangereux. Les nazis raisonnaient beaucoup, c'était d'excellents scientifiques. Et les nazis avaient bien calculé. Une personne handicapée, ça coûte cher. Il vaut mieux l'éliminer. Sur le plan financier, ils avaient entièrement raison. Je me permets de dire qu'un conseiller politique de notre époque, Jacques Attali, a osé écrire dans un rapport sur les finances de la sécurité sociale que l'euthanasie serait une bonne solution pour remédier au déficit de la sécurité sociale. C'est sûr que quelqu'un au cimetière, ça coûte moins cher. Mais voyez où en vient la raison humaine lorsqu'elle raisonne seule par elle-même. Elle devient froide, calculante, raisonnante, desséchée et desséchante, déshumanisante. Elle se retourne contre l'homme lui-même. Voilà la vérité de la raison toute seule. La raison a besoin de la chaleur, de la lumière, de l'amour pour être vraiment humaine. Mais ensuite, il faut avouer une deuxième chose, frères et sœurs, c'est que la foi a besoin de la raison. La foi toute seule peut terminer dans des délires. Donc la foi doit se laisser purifier par la raison. Ainsi donc, foi et raison, c'est ce que disait saint Augustin, dont nous avons la statue juste là au-dessus de nous. Eh bien, foi et raison sont comme les deux ailes qui nous permettent de nous élever vers Dieu. Ça va ensemble, profondément. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on trace un signe de croix sur nos lèvres. Ça veut dire, Seigneur, cette parole que j'entends, s'il te plaît, eh bien, que je puisse la redonner, que je puisse en partager quelque chose. Vous avez entendu comme le Seigneur insiste pour que nous portions du fruit. Quel est le premier commandement dans la Bible? Le tout premier, c'est « soyez fécond ». C'est pas « si tu as envie, porte du fruit », c'est « sois fécond ». C'est un ordre du Seigneur. Est-ce que tu as déjà entendu cet ordre de Jésus sur toi, sur ta vie? Sois fécond, porte du fruit. Je te donne tant, je t'ai tant donné. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi ça moisit? Pourquoi il n'y a rien qui... Non. Donc, Seigneur, fais-moi la grâce de partager quelque chose de ce que j'ai reçu. Voyez? Donc, et pas simplement avec du blabla. Benoît XVI disait, le chrétien sait quand il est bon de parler et quand il est bon de se taire pour ne laisser parler que l'amour. Ça, c'est pour les lèvres. Et puis ensuite, il y a le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Seigneur, cette parole, que je puisse l'aimer. Mais en fait, cette parole, c'est quoi? C'est qui? En fait, c'est Jésus. Et donc, cette personne que j'accueille, eh bien, que je puisse vraiment l'aimer. Pas simplement des vagues sentiments, des guilis-guilis, de la sensiblerie. Non, pas que ça. Même si notre affectivité, ça compte. Et en soi, ça n'a rien de mauvais. Mais que notre volonté aussi soit fortifiée. Que je veuille aimer le Seigneur. Que je veuille l'aimer. Seigneur, je veux t'aimer. Viens fortifier en moi ma volonté de t'aimer. Voyez, et c'est comme ça que nous ne serons pas les hommes et les femmes d'un moment, mais que ça va s'enraciner, que ça va durer durant toute notre semaine. Que je veuille t'aimer, Seigneur. Est-ce que je le veux vraiment? Vous savez, il y a parfois des gens connus, je pense à Louis de Funès, par exemple. Eh bien, Louis de Funès, quand on lui a dit « Est-ce que vous êtes croyant ?» Il a dit « Bien sûr, bien sûr. » Et on lui a dit « Mais depuis combien de temps vous êtes croyant ?» Il a dit « Depuis toujours. » Jésus a été le compagnon radieux de mon enfance. Jésus est le compagnon radieux de ma vie professionnelle et de ma vie tout court. Eh bien, frères et sœurs, c'est la grâce que nous demandons tous ce matin, que Seigneur, tu sois notre compagnon durant toute notre vie sur la terre. Amen.